RTL Info.
Le journal, Adrien Juvet.
Bonsoir. Le pont du Manège à La Chaux-de-Fonds a presque retrouvé sa jeunesse. Les travaux sont quasiment terminés. Il ne manque plus que la couche de roulement. Des centaines d'heures de recherche historique aboutissent à la publication d'un livre dédié aux anciens restaurants du Val de Travers. Jacques Kesslin publie Auberge, Bistrot et Cercle d'autrefois qui retrace une multitude d'établissements qui ont aujourd'hui souvent disparu. Neuchâtel Xamax FCS prend de la hauteur. Les Rouges et Noirs s'entraînent depuis quelques jours à Lignières pour préparer leur match contre le FC Lucerne. Leur entraîneur Michel De Castel nous explique le choix de ce site dans le Point Sport. Le ciel de la soirée s'annonce dégagé. Demain, le temps sera un peu plus lourd et des orages sont prévus principalement en montagne. Un navigateur de 72 ans a été retrouvé mort hier dans le lac de Neuchâtel près de Grandson. Son voilier inoccupé avait été découvert 2 heures plus tôt près de Chezon-Noréa. Le bateau échoué a été remarqué vers 15h30. Personne ne se trouvera à bord ni à proximité immédiate. D'importants moyens ont été mis en place pour retrouver son pilote. C'est à proximité de Grandson que la victime a été retrouvée vers 17h20 hier. Domicilié dans la région, l'homme était déjà décédé au moment où les secouristes l'ont retrouvé et ils n'ont rien pu faire. C'est une bonne nouvelle du côté du Creux du Vent. Udnia indique que le restaurateur du Solia a versé les salaires impayés à ses employés. Après plusieurs mois de procédures juridiques et d'actions sur le parking du restaurant mené par le syndicat, le patron de l'établissement a réglé ses dettes envers son personnel. C'est ce qu'indique le syndicat qui se réjouit de ne pas avoir eu besoin de recourir au tribunal pour régler cette affaire. La traversée d'est en ouest de la Chaux-de-Fonds va retrouver sa relative fluidité. Le chantier du pont du Manège touche à sa fin. Les rues du Cray et du Manège seront ouvertes à la circulation demain soir pour une durée de 3 semaines avant une nouvelle fermeture d'une quinzaine de jours. En effet, la pose de la couche de roulement est prévue à partir du 13 août. Une dernière étape de chantier compliquée. Nicolas Monin, responsable du secteur génie civil pour la ville de La Chaux-de-Fonds.
C'est une partie délicate dans le sens que on a la particularité donc à la ville de La Chaux-de-Fonds d'être à 1000 mètres d'altitude. Donc les revêtements en fait sont des éléments assez délicat, et puis on a intérêt à avoir une belle qualité d'exécution. Dès qu'on a des problèmes au niveau des couches de roulement, on a des dégradations au niveau des chaussées qui interviennent très très vite.
Et qu'est-ce qui fait que cette pose elle est réussie? Quels sont les ingrédients nécessaires pour que ce soit parfait?
Il faut déjà qu'on puisse faire une pose à la machine avec un compactage adéquat. Donc on a tout le train de pose, comme on dit. Donc au niveau des températures des arrivées, au niveau des enrobés, les températures de pose et le compactage en fait derrière qui doit être très soigné.
Un sujet réalisé par Myriam Vidvert. Les travaux de pose auront lieu de nuit pour ne pas perturber la circulation des trains DCJ. La ville de La Chaux-de-Fonds informe ses visiteurs de l'existence d'une ligne de partage des eaux dans la région. Différents panneaux ont été installés au bord des routes avec l'objectif de mettre en avant ce phénomène présent sur les crêtes du Jura neuchâtelois. Les précisions de Bettina Scheffli, professeure d'hydrologie à l'Université de Lausanne.
La ligne de partage des eaux indique dans quelle direction une goutte de pluie va s'écouler, c'est-à-dire elle va nous indiquer si une goutte de pluie s'écoule vers une telle rivière ou vers une autre rivière. La goutte peut s'écouler directement en surface quand il pleut très fort. Ça sera surtout la pente qui est déterminant. Donc si on se trouve en haut d'une crête, typiquement une goutte qui tombe à gauche va s'écouler vers la gauche et puis celle qui tombe à droite va s'écouler vers la droite. Par contre, une fois que la goutte s'infiltre, elle peut suivre des chemins qui ne dépendent pas uniquement de la pente, mais par exemple, elle pourra suivre des conduites dans le karst qui vont l'amener vers un point qui ne dépend pas uniquement de la pente en surface, mais des cheminements souterrains.
Bettina Scheffli répondait au téléphone de Caroline Banvart. Les anciens restaurants du Val de Travers n'ont plus de secrets. Jacques Kesslin publie un ouvrage sur les anciens bistrots de la région intitulé « Auberges, bistrots et cercles d'autrefois ». L'auteur qui a déjà publié 3 ouvrages consacrés à l'absinthe a recensé une centaine de troquets dans les 11 localités et les hameaux de la vallée. Pour chacun des établissements, Jacques Kesslin a réuni une multitude d'anecdotes et d'images historiques.
La première chose, c'est la recherche de documents. Lorsque j'écris quelque chose, j'ai besoin d'avoir un document. Je n'ai pas eu une systématique, c'est un peu en fonction d'un objectif primaire que j'avais, ne serait-ce que de chercher pour un immeuble particulier, et puis le hasard fait que vous découvrez autre chose. Après, il faut amasser systématiquement des informations, que ce soit sur la population de chaque village, sur les artisans, sur les bâtiments. Et puis après, il faut se donner la peine de croiser toutes ces informations pour dire, voilà, tel et tel habitait là et il faisait ça. Et puis ensuite, il faut trouver de l'image pour que la chose soit plus compréhensible, entre guillemets, pour le lecteur. Donc c'était des centaines d'heures de travail pour ces quelques pages d'élassement.
Et l'auteur ne compte pas reposer sa plume de sitôt. Il travaille actuellement sur un nouvel ouvrage consacré aux boulangeries d'hier et d'aujourd'hui au Val de Travers. Elle est connue loin à la ronde, on la trouve chez le boulanger, même parfois désormais en grande surface, la tailleule. C'est le 4e produit du terroir à l'honneur dans notre série d'été cette semaine. Après la viande, le fromage et le poisson présentés en début de semaine, ce pain avec ou sans raisin fait la fierté des boulangers neuchâtelois. Présentation du produit avec Francis Grandjean, co-auteur d'un livre de recettes sur les produits du terroir neuchâtelois.
La tailleule neuchâteloise est sans aucun doute un pain qui existe depuis fort longtemps. Il était surtout cuit dans les fours de la ménagère, parce que dans le temps, il y avait les ménagères préparaient leur pain eux-mêmes, mais ils avaient les fours pour ce genre de préparation. Et la tailleule neuchâteloise est faite de farine blanche. C'est un pain qui contient du beurre. Il ne faut pas exagérer non plus dans la quantité qu'on veut mettre pour vouloir faire meilleur. La tailleule neuchâteloise est connue. On peut l'acheter avec ou sans raisin, d'ailleurs. Elle a cette particularité avec les petites pointes de pâte qui la garnissent sur le dessus. C'est probablement de là que vient le mot tailleule, taillé. Je crois que c'est taillé avec des ciseaux. Donc, ça donne cette particularité. C'est bien entendu doré à l'œuf. Et ça donne cet aspect brillant et très gourmand, je dirais. Surtout utilisé comme pain du petit déjeuner et surtout le dimanche matin, du moins dans le temps.
Des propos recueillis par Léonard Reichen, direction la vigne demain pour notre dernier produit du terroir. L'occasion de prendre l'apéro en fin de semaine avec évidemment l'œil de Perdri. Un résident d'un EMS de Crissier dans le canton de Vaud est décédé aux chuves des suites de ses brûlures lors de l'incendie de sa chambre. L'établissement a dû être partiellement évacué durant l'intervention des secours. L'alerte a été donnée hier soir, peu après minuit. Les pompiers ont pu extraire de sa chambre l'homme de 48 ans qui est décédé aux chuves. Le feu a ravagé le toit de l'église du Sacré-Cœur dans le quartier de Plainpalais à Genève. L'incendie s'est déclaré cet après-midi vers 16h et a provoqué un important dégagement de fumée dans tout le secteur. Les pompiers sont toujours sur place pour tenter de maîtriser les flammes, mais le toit menace désormais de s'effondrer. Nous combinons la recherche scientifique de pointe avec la pratique des médias numériques. C'est une citation de Ralph Buchy, le patron du groupe de presse Ringier. Elle décrit l'action lancée pour soutenir l'innovation dans les médias. Plusieurs acteurs publics et privés des médias, ainsi que l'EPFL et les universités de Neuchâtel, Genève et Lausanne, ont constitué un fonds doté annuellement de 650 000 francs. Il permettra de financer des projets de recherche en lien avec les défis que doivent relever les médias. Est-ce la recette miracle pour sortir les médias de l'ornière? Les explications du bras opérationnel du programme, Mounir Krishan.
Je ne sais pas s'il existe une recette miracle, j'en doute. Cette initiative, elle a vraiment comme but de rassembler des acteurs académiques, privés, publics, autour de problématiques liées à l'innovation média. On est vraiment dans une démarche d'innovation ouverte. avec l'initiative pour l'innovation dans les médias, on essaye vraiment de mélanger un maximum les genres. Persuadé qu'on va réussir à faire une meilleure innovation comme ça. Donc on va s'intéresser aux problématiques techniques liées au changement dans le numérique, par exemple. Mais on va aussi faire ça en relation avec les sciences humaines, sociales, les questions d'éthique, les questions de modèles d'affaires, par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment un ensemble de thématiques et leur mélange qui seront intéressants.
À signaler que la Confédération soutient directement ce programme, mais que certains acteurs des médias comme Tamedia n'y participent pas. La police britannique pense avoir identifié les suspects de l'empoisonnement au Novichok que l'ex-agent double Sergei Skripal et de sa fille Lulia ont subi. Il s'agit de citoyens russes, selon Scotland Yard, qui évoque désormais une avancée majeure dans cette enquête. Pour éviter les droits de douane instaurés contre la Chine par le président américain Donald Trump, Volvo va rapatrier de Chine en Europe la production de son XC60. C'est le directeur général du constructeur automobile suédois qui l'indique. Il précise que ce transfert a déjà commencé. L'Union européenne demande aux entreprises d'envisager sérieusement tous les scénarios en matière de Brexit. Les pays de l'UE et les sociétés doivent intensifier leurs préparatifs aux répercussions qu'aura le départ du Royaume-Uni de l'Union, notamment en cas d'échec des négociations sur l'accord censé organiser le divorce. La Commission européenne a publié une note dans ce sens aujourd'hui.
Vous écoutez RTN, il est 18h11.
Sport. Xamax s'exile temporairement sur les hauteurs de la région. Depuis quelques jours, les Rouges et Noirs s'entraînent sur les terrains du FC Lignières afin de préparer leur première rencontre de Super League contre le FC Lucerne qui se tient samedi. Les explications de Michel de Castel, entraîneur de Neuchâtel Xamax FCS.
Pourquoi Lignières? Parce que Lignières, ben, ils ont un super terrain et puis on est à une bonne altitude, il fait un peu plus frais que sur la Maladière. Et puis étant donné qu'on joue sur un terrain en herbe à Lucerne, donc on a voulu vraiment trouver les meilleures conditions pour que l'équipe puisse s'entraîner.
Du coup, est-ce qu'on peut imaginer que l'équipe reviendra régulièrement s'entraîner à Lignières?
Peut-être cet été en tout cas. Après, bon, avec le froid, avec l'hiver, ça m'étonnerait, mais je pense que l'été, c'est un super coin. En plus, on a une buvette pour nous, et ils nous font à manger après les entraînements, donc on est vraiment...
Comme à la maison.
Comme à la maison, ici, exactement.
Des propos recueillis par David Sanchez. Neuchâtel Xamax FCS débutera samedi à Lucerne son aventure en Super League. Une rencontre qui est prévue à 19h et que vous pourrez évidemment suivre en direct sur RTN et retrouver demain sur nos ondes l'interview en direct du président rouge et noir Christian Bingley lors de notre journal de 12h15. Le maillot jaune s'impose à l'Alpe d'Huez. Geraint Thomas a enlevé cet après-midi l'étape reine du Tour de France. Le Gallois a pris le meilleur sur Tom Dumoulin et Romain Bardet en lançant une attaque à 200 mètres de l'arrivée. C'est la deuxième victoire consécutive dans les Alpes du maillot jaune. Le résumé de cette 12e étape par notre confrère de RMC Sport, Jean-Marie Sarka.
L'Alpe d'Huez au programme du peloton aujourd'hui et comme souvent, Sylvain Chavanel tente sa chance d'entrée de jeu. Un pétard mouillé pour le Français puisque la première véritable échappée se forme dans l'ascension du col de la Madeleine, classé hors catégorie. Un groupe d'une vingtaine de coureurs avec notamment Zakarin, Roland, Valverde, Maïka, Navarro ou encore le maillot à pois Julien Alaphilippe prend le large. Ils ne sont plus que 11 pour aborder le col de la Croix de Fer, dont Steven Kruijswijk qui décide de partir en solitaire. Le Néerlandais réussit un one-man show mais subit l'explication des leaders. Nibali, Quintana et Bardet attaquent chacun leur tour. À 4 km de l'arrivée, Christopher Froome prend les choses en main et accélère. Ils ne sont plus que 5 pour aborder les 3 derniers kilomètres. Romain Bardet, Geraint Thomas, Tom Dumoulin, Mikel Landa et Christopher Froome. La victoire d'étape va se jouer finalement au sprint incroyable et le plus rapide dans ces conditions se nomme évidemment Geraint Thomas qui devance Tom Dumoulin. Deuxième victoire d'étape déjà pour le maillot jaune après son succès à La Rosière. Serait lui finalement le grand favori de ce Tour 2018.
Et puis demain, le peloton partira de Bourdoison pour rallier Valence, un parcours de plus de 169 km avec une ascension de catégorie 3 et un col de catégorie 4 au programme. Pas de nouvel exploit pour Connie Perrin. La joueuse de tennis Chaudfonnier a été éliminée cet après-midi du tournoi féminin de Gstaad. Elle a succombé face à la tête de série numéro 1, Alizée Cornet. La Française 48e de la WTA s'est imposée 6-3, 6-0. Un peu plus tôt, Victoria Golubic rendait également les armes face à la Canadienne Eugénie Bouchard sur le score de 7-6, 7-6.
Vous retrouvez toute l'actualité de votre région sur rtn.ch et puis nous, on va prendre encore juste des nouvelles du ciel.
La météo avec Pierrot Ménager, agencement de cuisine, électroménager et salle de bain à La Chaux-de-Fonds.
Avec un ciel dégagé et de belles conditions pour cette fin de journée. Demain, le temps sera toujours assez ensoleillé et chaud, mais progressivement plus lourd. Des orages localement forts sont attendus dès le milieu de l'après-midi sur le relief, avant de déborder en pleine en fin de journée. Les températures, par contre, resteront estivales, avec 28 degrés au bord du lac, 25 dans les montagnes. Et puis pour ce week-end, samedi, temps instable, lourd et changeant, avec des averses orageuses dès le matin. Des averses parfois intenses, les températures vont baisser également quelque peu avec des maximales attendues de 18 à 22 degrés sur la région. Et puis finalement dimanche, temps restant variable avec encore quelques averses, surtout le matin. Ça devrait un peu mieux se passer l'après-midi avec un retour à de belles conditions. Il fera entre 19 et 23 degrés.